Bonjour! Alkamassa on Ranskan kurssin ohjelma 4.2, jossa käsitellään rakenneasioina futuria ja imperatiivia. Tarinoissa kertautuu myös imperfekti ja passé composé. Ohjelmassa liikutaan Bretagnessa ja Normandiassa, seurataan säätä ja kysellään harrastuksista.
Nyt kuulet, miten säännöllinen verbi choisir, valita, taipuu futurin eri persoonissa, kun keskustellaan lomahaaveista.
Moi, je choisirai la Côte d'Azur. Et toi, tu choisiras l'Alsace?
Je ne sais pas. Mon mari choisira certainement la Normandie. Mais si je voyage avec mon fils, nous choisirons toujours Bordeaux.
Ah, vous ne choisirez pas Paris?
Les touristes choisiront toujours les mêmes régions. Mais moi, je partirai pour la Bretagne, si c'est possible. Jos lauseessa presens ilmaisee tulevaa aikaa, päälauseeseen tulee futuri. Huomasitko äsken, mikä ääne kuuluu jokaisessa futurimuodossa erittäin selvästi? R-ääne. Säännöllisten verbien kohdalla tämä johtuu siitä, että varsinainen futuri muodostetaan verbin perusmuodosta ja siihen liitettävästä päätteestä. Myös epäsäännöllisten verbien kohdalla kuuluu R-ääne, vaikka lähtökohtana ei olekaan perusmuoto. Päätteet kuitenkin ovat säännölliset. Tarkista päätteiden kirjoitusasu oppikirjastasi. Mutta nyt Bretagneen.
Kun katsot Ranskan karttaa, näet Bretagnen niemimaan pistävän pitkälle Atlantin valtamereen maan länsirannikolla. Se onkin sekä Ranskan että koko Euroopan mantereen läntisin kolkka.
Je m'appelle Philippe et je voudrais vous présenter un petit peu ma région qui s'appelle la Bretagne. La Bretagne donc est une région française. C'est la dernière région de France avant donc juste les États-Unis qui sont juste devant nous. C'est-à-dire qu'en réalité, pour l'Europe, nous sommes la dernière région d'Europe continentale. Notre région est une région principalement orientée vers la mer, puisque en Bretagne, il y a l'équivalent à peu près de 700 km de côte. Donc ça veut dire que bien, nous sommes entourés, pour ainsi dire, complètement par la mer. Alors évidemment, donc, par rapport à cette côte, la principale activité, auparavant et même encore maintenant, eh bien donc c'était la pêche.
Sijainnista johtuen kalastus, la pêche, on yksi tärkeimmistä elinkeinoista. Mutta myös maataloudella on tärkeä merkitys. Sen erityispiirteenä oli ennen useiden kasvien samanaikainen viljely, la polyculture. Viljelykasveina olivat muun muassa vehnä, le blé, maissi, le maïs ja ohra, l'orge. Mutta 50-luvulla valtio puuttui liian pieniin maatiloihin ja muodostettiin suurempia tiloja.
À part l'agriculture, à part la pêche, bien sûr, nous avons donc d'autres ressources, puisque il y a la mer, mais il y a aussi donc la terre. La terre, eh bien, tout l'intérieur de la Bretagne était une terre de culture, une terre de ce que l'on appelle donc la polyculture. La polyculture, ça veut dire que on ne faisait pas forcément donc une seule culture, soit du blé, soit de l'orge, soit du maïs, mais c'était une terre où l'on faisait plusieurs cultures. On faisait donc à la fois de la pomme de terre, des carottes, des poireaux, du blé, du maïs, etc. Mais ça voulait dire aussi que les exploitations, c'est-à-dire les fermes, ce qu'on appelle les fermes chez nous, étaient donc très très morcelées, très petites, bon, excessivement petites. Et évidemment, dans les années 50, ces petites exploitations, les agriculteurs, comme on les appelle chez nous, ne pouvaient plus vivre parce que le terrain n'était pas assez grand. Alors l'État, donc chez nous, enfin le gouvernement, a décidé de ce que l'on appelle le remembrement, c'est-à-dire qu'ils ont repris les terres pour les regrouper de manière à faire donc des exploitations plus importantes.
Seuraavaksi Philip kertoo, miten Bretagnessa pyritään jalostamaan maataloustuotteita mahdollisimman pitkälle. Hän kutsuu järjestelmää nimellä le système agroalimentaire. Tuotteita saadaan muun muassa porsaasta, le cochon, lehmästä, la vache ja lampaasta, le mouton. Näistä tehdään säilykkeitä, des boîtes de conserve, kuten pateeta ja terriiniä.
Et puis maintenant, il y a la ressource principale chez nous, enfin une des ressources principales, qui elle justement provient aussi donc de l'agriculture, c'est ce que l'on appelle donc le système agroalimentaire. Le système agroalimentaire, bien c'est très simple, c'est-à-dire que tout ce qui est récolté chez nous, ou tout ce qui est produit, à savoir par exemple les cochons, les vaches, les moutons, quoique des moutons on n'en a pas beaucoup, eh bien tous ces produits-là sont remis donc en fabrication pour faire ce qu'on appelle des boîtes de conserve, des pâtés, des terrines, enfin des choses comme ça, qui sont revendues bien sûr après aux consommateurs. L'industrie agroalimentaire est une industrie excessivement florissante, puisque la Bretagne étant réputée, et voire la France bien sûr étant réputée pour sa gastronomie, nous exportons à peu près donc dans tout le monde entier.
Entä matkailuelinkeino?
Et puis je dirais donc on a parlé de la pêche, on a parlé de l'agriculture, on a parlé donc aussi donc de l'agroalimentaire, mais nous avons aussi donc un secteur qui est excessivement rentable pour nous, puisque nous habitons un pays merveilleux, c'est le tourisme, puisque le tourisme eh bien nous permet donc de recevoir, de par la proximité des îles anglo-normandes via Jersey, beaucoup d'Anglais. Nous avons aussi de plus en plus d'Allemands. Nous avons aussi beaucoup donc d'Espagnols et d'Italiens, parce qu'ils recherchent le climat qui est chez nous toujours un petit peu tempéré.
Philippe kertoi, että turismi on hyvin merkittävä elinkeino Bretagnen maakunnalle. Eikä se olekaan ihme, sillä turisti kohtaa siellä karuja rantoja ja villiä luontoa. Pohjoisrannikolla on toisaalta upeita hiekkarantoja, de plage, ja toisaalta hyvin jyrkkiä vaaleanpunaisia graniittirantoja. Rannikolla kohoaa myös salaperäisiä kivipaasia, menhirejä, joiden alkuperä on tuntematon. Meille ne on tehnyt tutuksi Asterix-sarjakuvassa esiintyvä hahmo Obelix. Bretagnesta löytyy myös 4000 linnaa ja kartanoa, joista osa toimii museoina ja majoituspaikkoina. Bretagnelaiset ovat ylpeitä kelttiläisestä alkuperästään ja käyttävät mielellään juhlapäivinä perinteisiä kansallispukujaan. Silmiinpistävä yksityiskohta naisten asussa on todella korkea tötterömäinen pitsipäähine.
Kuten bretanialaiset itse sanovat, he ovat syntyneet merivettä sydämensä ympärillä. Les Bretons sont nés avec de l'eau de mer autour du cœur. Osteriviljelyn lisäksi kalastus on kautta aikain ollut tärkeä elinkeino. Kuuntele seuraava katkelma ja ota selvää, mihin asti ulkomeren kalastusmatkat, eli la grande pêche, ulottuivat ja kuinka kauan ne kestivät.
La pêche. La grande pêche, c'est-à-dire que par exemple nous sommes ici à Saint-Malo. À Saint-Malo, bien Saint-Malo était le premier port d'Europe qui allait pêcher ce que l'on appelle donc la morue, donc un poisson. Et à cette époque-là, les pêcheurs partaient pendant 6 mois et allaient pêcher donc la morue au large d'une île qu'on appelle Terre-Neuve. Terre-Neuve, donc, qui se situe donc près du Canada. Donc c'était une vie extrêmement difficile puisque très souvent ils partaient à 50 sur un bateau et ils n'en rentraient plus que 40 ou 30 parce qu'il y avait toujours malheureusement des disparus. Hein. Par contre, eh bien, ce phénomène de la pêche a un petit peu effectivement disparu pour plusieurs raisons. D'abord, les petites embarcations, puisqu'en Bretagne c'était des petites embarcations, eh bien, ont disparu, je crois, quand même pour travers tout le monde, dans tout le monde, puisque maintenant elles sont remplacées par ce que l'on appelle donc des bateaux-usines. Donc des bateaux mais qui emmènent 300, 400, quelquefois donc 500 marins. Et c'est vrai que bon bien, ça a eu tendance à faire diminuer ce que l'on appelle la flottille. La flottille, c'est-à-dire donc, ce sont tous les bateaux de pêche d'un port. Ça a eu tendance donc à les faire diminuer.
Tosiaankin, Turskan pyyntimatkat ulottuivat Kanadaan asti ja kestivät puolikin vuotta. Turska on ranskaksi la morue. Näillä pyyntiretkillä moni kalastaja sai surmansa, koska veneet olivat pieniä. Nykyään kalastusalukset ovat suoranaisia tehtaita, de patosusin, joissa on satoja työntekijöitä.
Toisenlaista kalastusta kuvaa ilmaisu allée à la marée. Sillä tarkoitetaan simpukoiden ja muiden meren elävien poimintaa laskuveden aikana. Ennen vanhaan oltiin tämän takia poissa töistä jopa 3 kuukautta. Eipä ihme, sillä saaliina olivat ja ovat edelleenkin sellaiset herkut kuin taskurapu, la crabe, ja hummeri, le homard. Kaikkia näitä meren antimia kutsutaan yhteisesti nimellä le fruit de mer.
Auparavant, lorsqu'il y avait une marée, tous les ouvriers s'arrêtaient pour aller à la pêche. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas travailler pendant trois jours. Ils disaient donc à leur patron qu'ils étaient ou malades ou qu'il y avait tout simplement la marée, et ils prenaient donc des jours de vacances pour aller à la marée. Et ce qu'on appelle aller à la marée, donc c'est aller donc à la pêche lorsque la mer donc est descendue, c'est-à-dire donc lorsqu'elle est le plus bas possible. Nous profitons donc pour aller ramasser des crabes, ce qu'on appelle des bigorneaux, toutes sortes de petites bêtes que l'on mange après donc avec beaucoup de plaisir, ce que l'on appelle donc les fruits de la mer.
Meri on aivan olennainen osa kaikkien bretanialaisten elämää. Meren ilmiöistä kiinnostavin ja ainutlaatuisin on vuorovesi, la marée. Se on tällä alueella niin voimakas, että sitä on syytä kunnioittaa. Edes laukkaava hevonen ei pääse nousuveden alta pois. Nousuvesi on ranskaksi la marée haute ja laskuvesi la marée basse. Seuraavassa katkelmassa Monsieur Briand kertoo, että suuremmilta vuoroveden aiheuttamilta onnettomuuksilta on vältytty, koska ihmiset ovat selvillä tämän ilmiön voimasta. Ilmiö on ranskaksi le phénomène.
Et la mer, est-ce que la mer est importante pour vous?
La mer est indispensable. Question de santé, le grand air, une liberté qu'on ne connaît pas dans les grandes villes.
Oui, il y a un phénomène spécial ici, c'est la marée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
La marée joue avec les lunes. Donc il y a 6 heures que la mer descend et 6 heures que la mer remonte. Et selon les lunes, la marée est plus importante des jours que d'autres. La marée varie dans les grandes marées de 30 cm au plus bas à 13 mètres au plus haut. Donc vous voyez la grosse différence qu'il y a.
Est-ce qu'il y a eu des accidents avec la marée?
Toujours quelques petits accidents, mais pas très nombreux quand les personnes sont au courant de la force de la mer, donc il ne faut pas s'engager, il ne faut pas être trop volage, quoi.
Kuten kuulimme, vuorovesi-ilmiön vaikuttaa kuu, ja suurimmat vuoroveden vaihtelut voivat olla jopa 13 metriä.
Vuorovesi vaikuttaa myös säähän. Kun se on korkein, la grande marée, ja on kaunis ilma, sitä kestää kuukauden. Jos taas silloin sattuu olemaan huono ilma, sitäkin kestää kuukauden.
Mais chez nous la marée, c'est quand même quelque chose de magique. Quelque chose de magique, quelque chose de mythique aussi en même temps. Pourquoi? Parce que la marée, d'abord, elle agit toujours sur le temps. Les grandes marées, donc, agissent sur le temps. C'est-à-dire que on se dit toujours, lorsqu'il fait mauvais temps, par exemple, et lorsque la grande marée va arriver, puisqu'il y en a à peu près une par mois par rapport à la Lune, si ce jour-là, le beau temps revient, on est assuré de garder donc le beau temps jusqu'à la marée d'après, donc pendant un mois. Par contre, si le mauvais temps arrive avec la grande marée, on est assuré aussi de garder le mauvais temps, la pluie, le vent, pendant aussi un mois.
Säähän liittyvät ilmaukset kaunis ilma, le beau temps, huono ilma, le mauvais temps, sade, la pluie, ja tuuli, le vent. Minkälainen sää nyt mahtaa olla?
Quel temps fait-il?
Il fait beau.
Kaunistahan nyt onkin. Ja useimmiten, kun puhut säästä, sanot il fait. On huono sää.
Il fait mauvais.
Tuulee.
Il fait du vent.
On aurinkoista.
Il fait soleil. Il fait du soleil.
On kuuma.
Il fait chaud.
On kylmä.
Il fait froid.
On 5 astetta pakkasta.
Il fait moins 5 degrés.
Sataa lunta.
Il neige.
Sataa vettä.
Il pleut.
Katso nyt ulos ikkunasta ja kerro ranskaksi, millainen sää on.
Si on allé à la plage?
La plage, oui, très bien, surtout l'été pour bronzer.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, malheureusement, le temps n'est pas du tout idéal pour aller à la plage.
Koska sää oli huono, uimarannalle menosta ei tullut mitään, mutta ranskalaiset sanovat, après la pluie, le beau temps. Britanniassa harrastuksista tärkeimmät liittyvät tietenkin mereen. Samoin on laita sen naapurimaakunnassa Normandiassakin. Tässä normandialainen nuori mies kertoo harrastuksistaan.
Donc les loisirs en Normandie donc ils sont essentiellement donc axés sur la mer vu qu'il y a la mer à proximité donc à une dizaine de kilomètres de chez nous. Donc les sports marins on rencontre le voilier, le catamaran, la planche à voile, le spitzail, le cerf-volant, des sports qui sont également axés sur le vent vu que c'est une région assez ventée. Sinon, il y a les sorties en boîte qui sont ouvertes jusqu'à 5h du matin, également les bars jusqu'à 2h du matin. Entre autres, ensuite on trouve également donc tous les sports traditionnels, donc que ce soit football, cyclisme, jogging que je pratique énormément moi à titre personnel ou les différents sports identiques aux autres.
Ystävämme Damien käytti sanoja les sports marins. Meren liittyvät urheilulajit. Niitä ovat le voilier, purjevene, la planche à voile, purjelautailu, ja rannalla harrastettavat le spitzail, purjekelkka, ja le cerf-volant, leija. Näihin urheilulajeihin vaikuttavat myös tuulet. Tuulinen on ranskaksi venti.
Mutta mitä muuta voisi harrastaa? Ranskan kielessä harrastuksiin liittyvät asiat voi pääasiassa ilmaista verbeillä jouer ja faire. Erilaisten pelien yhteydessä käytetään rakennetta jouer à. Esimerkiksi je joue au tennis et toi tu joues au foot. Nous jouons au volleyball et vous, vous jouez au basket. Kuten huomasit, pelien nimet on lainattu englannin kielestä, mutta ääntämys on enemmänkin ranskaa. A-prepositiota käytetään myös, kun puhutaan kortin ja shakin pelusta. Nous jouons aux cartes et il joue aux échecs. Kun jouer-verbillä on merkitys soittaa, prepositiona on de. Esimerkiksi Marie joue du piano, Eric joue de la guitare et Henri joue du saxophone. Hélène joue de l'accordéon et Lise joue de la flûte. Muistat kai, että aikaisemmin olemme käsitelleet faire-verbiä merkityksessä harrastaa. Faire du sport, faire du ski. Samoin sanotaan hölkätä, faire du jogging, lasketella, faire du ski alpin ja rullaluistella, faire du patin roulette. Nykyään rullaluistelusta käytetään toistakin nimeä. Kuuntele mitä. Ota myös selvää, mitä pojan varusteet maksavat. Ja miksi vanhemmat ovat ostaneet ne hänelle juuri nyt?
Qu'est-ce que tu étais en train de faire?
J'étais en train de faire du roller.
Et où?
À Saint-Malo, sur le Sire.
Ça te plaît?
Oui.
Et ton équipement, ça coûte beaucoup?
Bah, ça dépend. Ça coûte entre 100 et 200 francs.
C'est tes parents qui ont tout payé?
Oui, pour mon anniversaire.
Ah bon, tu as quel âge?
Je vais avoir 9 ans.
Poika käytti englantilaisperäistä sanaa roller, eli faire du roller. Hän väitti varusteidensa maksaneen 100-200 frangin välillä. Vanhemmat olivat ostaneet ne hänelle, koska hän täyttää pian 9 vuotta. Seuraavaksi eräs pariskunta kertoo harrastuksistaan. Sinulle uusia sanoja lienevät nyrkkeily, la boxe, voimistelu, la gymnastique ja kuntosalilla käynti. La musculation.
Est-ce que vous avez des passe-temps spéciaux?
Des passe-temps, des loisirs, vous voulez voilà. Du sport et des choses comme ça? Bah oui. On fait pas mal de choses, on fait un petit peu de vélo, moi je fais un peu de boxe, enfin on fait pas mal de choses.
Et voilà. Vous madame?
Moi je fais de la gym, de la gymnastique, musculation, on fait du roller également un petit peu.
Kuultujen esimerkkien ja annetun sanaston avulla pystyt nyt kertomaan omista harrastuksistasi.
Harrastuksena voi olla myös ruoanlaitto. Britanniassa ja sen naapurimaakunnassa Normandiassa on monia paikallisia herkkuja, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Katso web-sivuilta keitettyjen sinisimpukoiden Moule Marinière resepti. Resepteissä ja muissa ohjeissa käytetään joko infinitiiviä tai varsinaista imperatiivia.
sehän on yleensä presensin kaltainen. Alors, mes amis, servez-vous. No, mitä herkkuja normandialaisesta pöydästä löytyykään simpukoiden ja muiden meren antimien lisäksi? Aluksi maakunnan korkealaatuisia vihanneksia, kuten latva-artisokkaa, l'artichaut. Pääruoksi vaikkapa kananpoikaa siiderikastikkeessa, le poulet au cidre. Ja jälkiruoksi kalvadosomenoita. Ennen jälkiruokaa maistellaan kuitenkin alueen juustoja. Näitä ovat le camembert, pont l'évêque ja le livaro. Ruokajuomana on tietenkin siideri. Kuuntelen nyt, miten siideriä valmistetaan.
Comment est-ce que vous faites du cidre?
Alors le cidre, nous ramassons les pommes, nous ramassons les pommes au mois d'octobre, novembre, mais à la main. Les pommes, nous ne les cueillons pas, nous attendons qu'elles tombent. Et suivant la maturité des pommes, 15 jours, 3 semaines après la récolte, nous les pressons et le jus est transféré dans des fûts en chêne. Et quelques jours après, nous le soutirons pour refaire une fermentation naturelle.
Et comment est-ce que vous vendez votre cidre?
Nous vendons notre cidre un peu par notre renommée dans quelques crêperies, restaurants et particuliers qui aiment cette boisson.
Lokamarraskuussa omenat siis kerätään käsin, sen jälkeen kun ne ovat pudonneet maahan. Kypsyysasteesta riippuen ne puristetaan mehuksi 2-3 viikon kuluttua. Sitten mehu siirretään tammiastioihin ja muutaman päivän kuluttua toisiin astioihin luonnollista käymistä varten. Valmis siideri myydään muun muassa kreppiravintoloihin ja muille halukkaille.
Siideri voidaan vielä jalostaa väkeväksi kalvadoshedelmäviinaksi. Kun siideriä ja kalvadosia sekoitetaan, saadaan aperitiivi nimeltä pomo. Omenapuut, le pommier, viihtyvät hyvin Normandian kosteassa ilmastossa. Damien kuvaa seuraavassa kotiseutunsa vehreää luontoa. Pensasaita on la haie, metsikkö, le bocage ja metsäinen boisé.
Donc je vais parler donc de la Normandie qui reste la plus belle région du monde. Ça peut être par chauvinisme, mais sa particularité donc peut être son paysage, donc un paysage très vert avec ce qu'on appelle le bocage, c'est-à-dire des petits champs coupés de haies boisées. Sinon, la Normandie est aussi une région très maritime, vu qu'on a beaucoup de kilomètres de côte, donc elle est énormément axée donc sur la mer.
Elinkeinoista Damien mainitsee maatalouden ja maitotaloustuotannon, la production laitière. Meren antimista hän tuo esiin osterit, les huîtres, ilmaston leuto, kesän ja talven väliset lämpötilaerot ovat pienet.
Ce qui nous amène donc au niveau économique, donc à une économie agro essentiellement axée sur l'agroalimentaire. Donc son paysage vert donne effectivement une production laitière avec les vaches de race normande qui sont des productrices de lait. La mer nous amène aussi l'élaboration de plats cuisinés donc marins, aussi les huîtres qui sont très typiques de la Normandie. Le climat en Normandie est très humide, il est également tempéré, c'est-à-dire qu'on a peu de variations de température entre l'hiver et l'été. On doit avoir 10 à 15 degrés de différence.
Ymmärtääksesi, mitä Damien kertoi Normandian historiasta, tarvitset sanoja luoja, le créateur, viikinki, le viking, herttuakunta, le duché, liittää, annexe. Tämän vuosisadan asioita käsitellessään hän käyttää sanoja maihinnousu, le département, vahinkohaitta, le dégât, pelastaa, secourir ja ies, orjuus, le joug. Hän kertoo myös, että Normandiassa on vain yksi suuri kaupunki, Caen. Väestö asuu suurimmaksi osaksi maalla ja siitä voidaan käyttää ilmausta la population rurale.
Sinon, l'histoire normande, donc la Normandie est une région dont les créateurs, en quelque sorte, étaient vikings, donc originaires de la Scandinavie, essentiellement de Norvège et du Danemark. Et au préalable, c'était un duché qui a été donc annexé au XIVe siècle par la France. Sinon, la Normandie a également souffert du débarquement donc de 1944 par les Américains. On dit souffert parce que les dégâts ont été occasionnés par eux, mais heureusement, ils sont venus quand même nous secourir du joug allemand. La population donc normande est essentiellement rurale. Il n'y a très peu de grandes villes, uniquement Caen qui compte 100 000 habitants. Sinon, les gens vivent essentiellement à la campagne.
Olemme liikkuneet Bretagnessa ja Normandiassa. Näiden rajalla sijaitsee Mont-Saint-Michel, tunnettu pienellä saarella kohoava benediktiiniläisluostari. Se on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen, muun muassa siksi, että siinä näkyvät eri aikakausien rakennustyylit 700-luvulta gotiikan kautta 1800-luvulle. Luostarisaari on kokenut myös monia jännittäviä vaiheita pitkän historiansa aikana. Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen se toimi kymmeniä vuosia vankilana. Mantereen ja saaren yhdistävä Penger rakennettiin vasta 1800-luvun lopulla, ja sitä ennen alueelle pääsi kävellen vain laskuveden aikaan. Nykyään luostarissa asuu pieni benediktiiniläisveljeskunta.
Madame, comment trouvez-vous le Mont Saint-Michel?
Je trouve que c'est quelque chose de merveilleux quand on pense comment ça a été construit. C'est devenu, oui, quelque chose de très commercial, mais je déplore qu'on ait retiré sur ce monument le drapeau breton. Étant moi-même d'origine bretonne, avant, il figurait ce drapeau. Maintenant, la rivière Couesnon est passée de l'autre côté, ce qui fait que le Mont Saint-Michel est normand, et ça, c'est vraiment épouvantable.
Edellistä puhujaa ärsytti se, että Mont Saint-Michelin tornissa ei liehu enää Bretagnen lippu, koska Quenon-joki on muuttanut kulkuaan Normandian eduksi. Hän mainitsi myös liiallisen kaupallisuuden. Ja samaa mieltä on seuraavakin puhuja.
Trop touristique, je dirais beaucoup trop de cartes postales à vendre, beaucoup trop de choses comme ça. Beaucoup trop de commerce sur ce mont.
Oui, donc ça vous gêne un peu.
Oui, c'est un petit peu trop, je pense.
Ei ihme, että turisteja tuntuu olevan liian paljon. Niin, kuinka paljon vuodessa? Ja mitä kansallisuuksia?
Donc vous êtes en direct du Mont Saint-Michel, donc site accueillant plus de 3 millions de visiteurs par an, toutes nationalités confondues, qui vont des Anglais, des Américains, Italiens, de plus en plus d'Espagnols.
Ohjelman lopuksi on mukava muistella Anne-Laurin johdolla, mitä kaikkea olemme oppineet Normandian seudusta.
La Normandie se caractérise essentiellement par un paysage très verdoyant et également des petits champs avec des haies très boisées. Et dans les champs, on trouve les vaches normandes et les pommiers. Et de là, à partir des vaches et des pommiers, on retrouve tout ce que la Normandie peut apporter au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire le lait avec les fromages très connus comme le camembert, le livaro et le pont-l'évêque. Et à partir des pommiers, on se sert des pommes pour fabriquer le cidre. Et à partir du cidre, on fabrique le calvados et aussi le pommeau.
À la prochaine!